VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 17h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 24 avril. Burundi, 2 ans de crise politique avec des violences qui ont fait 500 morts selon l'ONU et 2000 selon les ONG et poussé près de 400 000 personnes à l'exil. Présidentielle française, le candidat centriste Emmanuel Macron arrivé en tête devant Marine Le Pen de l'extrême droite, qualifié pour le second tour le 7 mai. Et puis cette nouvelle que nous avons appris tout à l'heure, les autorités congolaises ont présenté lundi à la presse une vidéo montrant ce qu'elles estiment être l'assassinat de 2 experts de l'ONU. Et puis bien sûr nous reviendrons sur le premier test grandeur nature du vaccin le plus avancé contre le paludisme qui tue chaque année des centaines de milliers d'Africains. Et ne manquez pas dans cette édition votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco. Et je vous le disais en titre, les autorités congolaises ont présenté ce lundi à la presse une vidéo montrant ce qu'elles estiment être l'assassinat de 2 experts de l'ONU tués en mars au Kasaï, Michael Sharp et Zeida Catalan. Les détails de Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Pour cette vidéo d'environ 5 minutes, on sait voir les 2 experts de l'ONU en train d'être fusillés à bout portant par leurs accompagnateurs et bourreaux. Le premier à être exécuté, c'est l'Américain. Et la Suédo-Chilienne qui voulait s'interposer a reçu 2 balles avant d'être décapité à son tour. Cette vidéo laisse croire que les 2 experts onusiens étaient tombés dans un piège leur tendu par leurs bourreaux qui prétextaient les accompagner découvrir des fosses communes. Par contre, aucune allusion au Congolais présenté comme l'interprète des experts onusiens, lui également donné pour mort. Selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga, certaines personnes qui figurent sur les images ont déjà été arrêtées. Une autre vidéo d'environ 14 minutes a été présentée aux représentants des médias congolais et étrangers. Elle montre un groupe de policiers subissant un interrogatoire en Lingala et en Chiluba, dans un village du Kasaï. D'après le colonel Piero Monamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, il s'agit de 53 policiers dont 39 ont, selon la police nationale, été tués en mars dernier à Kamwesha, à 67 km de Chikapa. Pour finir, le ministre de la Communication et Média a rappelé qu'il est hors de question de négocier avec ces gens-là. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et toujours dans la région, le Burundi. Le 26 avril 2015, des milliers de personnes se réunissent au lendemain de la désignation de Pierre Nkurunziza par son parti, le CNDD-FDD, comme candidat à la présidentielle. Coup d'envoi de 6 semaines de manifestation à Bujumbura sévèrement réprimé. 2 ans après, le début d'une crise politique majeure, le Burundi est plus que jamais dans l'impasse. Salwa Jafari.
L'annonce le 25 avril 2015 de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat controversé avait déclenché un vaste mouvement de contestation populaire sévèrement réprimé et plongé le pays dans la crise. En 2 ans, les violences et exécutions extrajudiciaires ont fait entre 500 morts selon l'ONU, 2000 selon les ONG et poussé 400 000 Burundais à l'exil. Le gouvernement burundais assure pourtant le contraire, la crise est derrière nous, c'est le message qui revient le plus dans les déclarations officielles. Mais selon l'opposition, le parti au pouvoir et la ligue de ces jeunes, les Imbonerakure, ont pris le pays dans leur serre et sont en train de l'étouffer petit à petit.
3 militaires camerounais participant à la guerre contre les islamistes de Boko Haram au nord du Cameroun ont été tués lundi et 5 autres blessés dans l'explosion d'une mine a pris de sources sécuritaires l'AFP. 4 personnes ont été tuées dans 2 attentats suicides. Cette fois-ci, nous sommes à Maïdougouri au Nigeria, le berceau du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont rapporté lundi des membres des milices civiles. Le premier attentat a eu lieu dans le village de Maminiti et à 15 kilomètres de la grande ville du Nord-Est. Nouvelle tension diplomatique entre Alger et Rabat. L'Algérie a convoqué hier l'ambassadeur marocain suite aux accusations du royaume chérifien faisant état de l'expulsion de réfugiés syriens vers le Maroc. Abdourahmane Dia.
L'Algérie n'a pas aimé les déclarations du Maroc ce week-end, faisant état de 55 réfugiés syriens expulsés dans le but de semer le trouble à la frontière et générer un flux migratoire incontrôlable. Et toujours selon Rabat, il y avait des femmes et des enfants dans le groupe et ils étaient dans une situation très vulnérable. Dans un communiqué de presse, le ministère algérien des Affaires étrangères a révélé avoir convoqué l'ambassadeur du Maroc afin de lui signifier le rejet des allégations qualifiées de mensongères et lui démontrer le caractère totalement infondé de ces accusations. Pour Alger, c'est plutôt le Maroc qui a tenté d'expulser un groupe de réfugiés vers l'Algérie. Selon une source contactée par l'AFP dans une ville frontalière, les migrants syriens étaient toujours coincés samedi dans un no man's land entre les deux pays, sans accès à de l'eau ou de la nourriture. En mars dernier, des organisations de défense des droits humains avaient dénoncé le traitement de migrants d'Afrique subsaharienne à la frontière entre les deux pays. Une trentaine de migrants étaient bloqués dans le no man's land entre le Maroc et l'Algérie après avoir été refoulés par les autorités des deux pays. Cette frontière est fermée depuis 1994.
Sans transition, le Conseil de la République angolais, dirigé par le président José Eduardo dos Santos, a fixé au 23 août prochain la date des élections générales qui doivent marquer la fin du règne de 38 ans du chef de l'État sortant. Le président dos Santos doit maintenant formellement convoquer les 9,6 millions d'électeurs angolais. Au pouvoir depuis 1976, M. dos Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. Et puis on finit avec une note de jazz au Sénégal, suite du 25e Festival international de jazz de Saint-Louis, événement moteur de cette ville du Nord, à près de 270 km de Dakar, avec parmi les têtes d'affiche cette année l'Américain Marcus Miller, qui est un habitué du festival, le Congolais Lukwa Kwanza et le Sénégalais Cherlo. Il y en a qui vont s'amuser.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Week-end électoral en France. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 7 mai pour la présidence à l'issue d'un premier tour historique qui voit le candidat de la droite républicaine François Fillon éliminé. Éliminé et la gauche socialiste aussi décimée. Les précisions de Jacques Aristide.
Emmanuel Macron relève un pari jugé fou il y a encore un an, avec un positionnement idéologique inédit, ni droite ni gauche, avec son mouvement En Marche. Il s'est placé en tête avec environ 23% des suffrages. La plupart des grands perdants ont appelé à voter pour lui dans deux semaines. À 39 ans, cet ancien banquier serait bien placé, selon les instituts de sondage, pour devenir le plus jeune chef d'État de la 5e République française. Mais rien n'est joué. C'est la seconde fois sous cette même 5e République que l'extrême droite accède au second tour d'une présidentielle. Marine Le Pen, la fille du cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, obtient un record d'environ 22% des suffrages. Affirmant que la survie de la France était en jeu, Marine Le Pen a lancé un appel en faveur de l'alternance fondamentale. En campagne ce lundi, elle a insisté sur la lutte contre le terrorisme et ce qu'elle appelle la mondialisation sauvage, deux thèmes par lesquels elle entend se démarquer de son adversaire. Avec la défaite de François Fillon, c'est la première fois que la droite républicaine est éliminée au premier tour. À gauche, le Parti socialiste avec son candidat Benoît Hamon a également subi la plus cuisante des débâcles depuis la présidentielle de 1969. Des heurts impliquant notamment des manifestants d'ultra-gauche ont éclaté hier soir à Paris. 6 policiers et 3 manifestants ont été légèrement blessés et 29 personnes ont été placées en garde à vue.
Et on connaît désormais les résultats définitifs de ce premier tour de l'élection. Le centriste Emmanuel Macron arrive donc en tête du premier tour avec 24,01% des voix, devant la candidate d'extrême droite Marine Le Pen à 21,30%. En troisième position, le candidat conservateur François Fillon a obtenu lui 20,01% des voix et devant celui de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon 18,58% selon les chiffres incluant le vote des Français de l'étranger. En Russie, un collégien a été tué et 11 autres ont été blessés lundi dans l'explosion accidentelle d'une grenade dans un établissement scolaire au Daghestan. Le Daghestan, c'est une petite république du Caucase où une rébellion armée islamiste est très active et régulièrement victime d'incidents armés et d'attaques visant les autorités et les forces de l'ordre. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, est arrivé lundi pour une visite surprise en Afghanistan, où 8400 soldats américains sont déployés, 3 jours après une attaque meurtrière qui secoue la hiérarchie militaire afghane au plus haut niveau. En Inde, c'est 12 policiers qui ont été tués lundi par la rébellion maoïste dans le centre du pays. Nouvel incident meurtrier d'un conflit intérieur qui dure depuis un demi-siècle. Les membres de la Central Reserve Police Force sont tombés dans une embuscade alors qu'ils patrouillaient sur une route en construction. Un traquenard contre un convoi de la CRPF dans cette même zone le mois dernier avait fait également 12 morts. Et puis un avocat philippin a déposé lundi en tant que citoyen un dossier d'information auprès du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale, la CPI, accusant le président Rodrigo Duterte d'avoir causé la mort de plus de 8000 personnes dans sa guerre anti-drogue. Et nous parlons là de l'Indonésie. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique et la Minute Éco est présentée cette semaine par Jacques Aristide.
Le rapport de Quantum Global sur l'attractivité des pays africains pour les investissements internationaux révèle que 24 nations ont connu des ascensions fulgurantes en comparant les chiffres de l'an dernier à ceux des trois années précédentes. C'est le cas notamment du Swaziland, de Djibouti, du Rwanda, de Sao Tomé, du Burkina Faso, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Guinée. Mais 26 pays du continent sont dans le camp des mauvais élèves. L'Algérie, l'Angola, le Gabon, la Libye, la Guinée équatoriale et les Seychelles sont parmi ceux qui ont le plus reculé ces trois dernières années. GE Power, filiale de General Electric, a signé aujourd'hui un important contrat de plus de 3 milliards de dollars avec la société algérienne de distribution d'électricité et du gaz, la Sonelgaz. Il s'agit du plus important contrat de partenariat de l'histoire pour GE Power. L'accord vise notamment à garantir des opérations et services de maintenance à long terme pour 10 centrales Sonelgaz à travers l'Algérie, ce qui devrait permettre de générer 11 gigawatts d'électricité. Libreville et Alger viennent de signer un accord qui permettra aux avions des deux compagnies algériennes, Air Algérie et Tassili Airlines, de desservir le Gabon. Le contrat concerne aussi bien le transport de passagers que le fret sur la base de la réciprocité conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Et c'est l'heure des sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Tatiana.
Retour sur le Classico Real-Barça, les Catalans redeviennent leaders de la Liga.
Belle victoire du Barça arrachée dans le temps additionnel. Tatiana, c'est un Messi, comme titre le journal catalan Mundo Deportivo, a relancé un Barça moribond quelques jours après sa déroute en Ligue des Champions face à la Juventus. ZZ Zinedine Zidane a salué la prestation de l'Argentin. Il faut le féliciter, un point barre, a lâché l'entraîneur français du Real. Par conséquent, le Barça redevient leader à la différence de but devant le Real, mais à égalité de 75 points. Ce Classico a permis à Lionel Messi à signer un doublé pour atteindre 500 buts sous le maillot catalan. Il a ainsi répondu du tac au tac à Cristiano Ronaldo, devenu mardi dernier le premier joueur à dépasser les 100 buts en Ligue des Champions. C'est le premier grand rendez-vous raté pour Zidane comme entraîneur du Real, Tatiana. Mais en revanche, l'équipe merengue garde son destin en main en Liga avec un match en retard. Il faut aussi mentionner la Ligue des Champions.
Et en Coupe de France, le PSG, au PSG, c'est un autre Argentin qui domine les débats.
Tout à fait, l'on parle d'Angel Di Maria avec sa patte gauche dans le sprint final. Sur ses 5 derniers matchs, le natif de Rosario a marqué 5 buts du pied gauche, habile dans les dribbles. Di Maria aime repiquer dans l'axe pour enrouler une frappe du gauche. L'Argentin, deuxième plus cher transfert de l'histoire du championnat de France, 63 millions d'euros en provenance de Manchester United à l'été 2015.
Et l'Atlético Madrid saisit en appel le TSA pour pouvoir recruter.
Los Colchoneros se sont soumis à une interdiction de recrutement imposée par la FIFA. C'est à cause d'irrégularités constatées lors des transferts de joueurs mineurs. L'Atlético Madrid espère pour sa part une décision avant le mois de juin 2017 et c'est le tribunal arbitral du sport qui doit décider.
Et un mot de tennis, Serena Williams fête sa grossesse en reprenant la tête du classement WTA.
Elle attend un enfant pour cet automne. Elle annonce aujourd'hui de son classement féminin. Serena Williams a écrit sur son futur bébé sur son compte Instagram à l'adresse de l'enfant Tatiana qui doit mettre au monde en septembre. Mon bébé, tu m'as donné une force que j'ignorais posséder. Tu m'as enseigné la véritable définition des mots sérénité et paix. Je suis si impatiente de te rencontrer.
Et voilà, et puis on donnera un mot de basket avec Cleveland qui balaye l'Indiana et on revient plus tard.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Tatiana Mosso, mais un petit mot avant qu'on fasse place au dossier du jour. On reviendra sur une page complète des sports tout à l'heure dans la prochaine édition. On prend la direction de la France. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu hier. Deux candidats sont en lice pour le second tour. Emmanuel Macron, 39 ans, à la tête d'En Marche, son parti créé il y a 18 mois. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande a récolté 24% des voix devant Marine Le Pen, candidate du Front National, qui a, elle, remporté 21,03% des suffrages. Alors, comment comprendre ce choix des Français, un outsider face à une candidate de l'extrême droite? C'est Anastasie Toutdiège qui a posé la question à Pascal Blanchard, historien français spécialiste de l'histoire des migrations.
Trois raisons expliquent que la société française certainement est en rejet d'une partie de la politique classique et de ses élites politiques. Le premier constat, c'est qu'il y a un rejet structurel des grands partis qui ont fondé la vie politique française depuis maintenant près de 30 ans, de droite et de gauche traditionnelle, le Parti socialiste d'une part et la droite conservatrice de l'autre. Deuxièmement, il y a aussi un rejet des individus d'une certaine manière, une volonté d'une forme de nouvelle génération, soit d'une génération qui n'a jamais été au pouvoir, type le Front National avec Marine Le Pen, ou Emmanuel Macron qui symbolise une nouvelle génération à travers son âge et son discours ni droite ni gauche. Enfin, dernier point, il y a une forme d'attrait pour des hommes ou des femmes qui, à travers leur personne, vont transcender et dépasser les partis politiques comme s'ils amenaient des solutions miracles aux problèmes de la France. D'une part, avec le Front National, un rejet de l'immigration, un rejet des politiques jusqu'alors menées en place. Et de l'autre côté, avec Emmanuel Macron, une vision extrêmement positive, ouverte sur l'avenir. L'un vend du déclin, l'autre du rêve. Et les deux ont donc correspondu pour pratiquement 50% de l'électorat français à une sorte d'un autre devenir, d'un autre destin.
Ça n'est pas la première fois que le Front National arrive sur le podium. En 2002, le père de Mme Le Pen, Jean-Marie Le Pen, arrivait lui aussi en deuxième position avec 16,86% des voix derrière Jacques Chirac. 15 ans plus tard, Mme Le Pen fait donc mieux que son père. Qu'est-ce qui a changé ?
Elle fait mieux que son père, mais il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, le Front National était aussi en concurrence avec le parti, d'autres partis d'extrême droite. Donc les scores ont toujours tourné entre 16, 17, 20% depuis à peu près une quinzaine d'années. En même temps, on découvre qu'il a beaucoup de mal à fédérer autour de son nom ou autour du nom de Marine Le Pen pour un second tour d'autres partis politiques.
Emmanuel Macron, président ?
Emmanuel Macron, président, c'est presque une certitude électorale, même s'il ne faut pas parier sur ce qui sont des évidences ces derniers temps, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur qui va gagner. Ça l'est pour une raison qui est assez simple. Il y a encore un rejet profond pour une partie de la droite, pour une grande partie de la gauche et pour une grande majorité des électeurs du refus de voir les ténèbres que serait l'élection de Marine Le Pen. Mais c'est certainement la dernière fois.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les gens vont accepter l'idée que le Front National est un parti normal. La moitié du chemin est déjà fait, nous l'avons vu à travers le type de campagne qu'a fait Marine Le Pen. Elle est en train de se notabiliser. Il commence même à y avoir des gens issus des élites qui appellent à voter au Front National. Regardez, Madame Boutin, les ambiguïtés de certains sur le second tour démontrent que maintenant, le diable n'est plus le Front National. Quelque part, elle a réussi un de ses premiers paris, c'est de se dédiaboliser. Et le prochain pari, qui est le sien, ce sera de se normaliser. Et ça, ce seront les législatives dans quelques semaines.
Et c'était Pascal Blanchard, historien français spécialiste de l'histoire des immigrations.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Un espoir sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé vient de lancer un premier test à grande échelle pour un vaccin antipaludique en Afrique. Ce programme pilote sera mené au Kenya, au Ghana et au Malawi, trois pays ayant déjà participé à des tests à plus petite échelle. Solange Nyamulisa a joint Eliane Führer, experte de l'OMS, en appui au projet pilote de vaccin antipaludique.
Le vaccin a été évalué dans le cadre d'un vaste essai de phase 4 qui est fini en 2014 Et donc maintenant, c'est pour la première fois que le vaccin va être utilisé dans les programmes de routine. Et on pense, après une phase préparatoire, les premières vaccinations vont avoir lieu en mi-2018. Ça va nous fournir les données et l'expérience pour les trois pays pour après voir si c'est faisable de donner ce vaccin à une échelle plus large.
À peu près 90% des gens souffrent de la malaria sur le continent africain. Est-ce que grâce à ces vaccins, la lutte va être améliorée?
On a vu lors des essais cliniques qui ont été menés précédemment que le vaccin permet de réduire le nombre des épisodes paludiques. Et selon ces tests, on a vu que de 10 cas, on arrive à réduire ou à éviter 4 cas. Donc c'est assez prometteur. Mais ça veut aussi dire qu'il faut continuer à utiliser tous les autres outils à disposition pour prévenir la maladie, la traiter, la diagnostiquer. Et donc, tous les efforts doivent continuer. On doit aussi augmenter les efforts pour tous les outils existants. Et le vaccin pourrait être un autre outil à rajouter dans cette lutte.
Est-ce que les pays vont pouvoir contribuer ou il faudrait payer pour être vacciné?
Pendant la phase pilote de ce projet, le vaccin va être mis à disposition de manière gratuite par les fabricants. Donc, il ne va pas avoir de coût pour les trois pays qui participent. Il faut aussi mentionner qu'on va utiliser le système des pays. Donc, leur système de routine de distribution de vaccins, donc ils contribuent par ce système au projet. Plus tard, ce projet pilote va nous permettre d'évaluer la faisabilité d'atteindre ces enfants avec les 4 doses du vaccin. Et ça va permettre à l'OMS de faire une recommandation par rapport à l'utilisation à l'échelle plus large. Et donc, ça sera à ce moment-là que on va voir sous quelles conditions le vaccin peut être mis à disposition. Mais la compagnie pharmaceutique a publiquement annoncé qu'ils ne vont pas chercher un prix de marché pour ce vaccin. Donc, ils vont mettre ce vaccin à disposition à un prix de production. Et donc, je crois que tous les acteurs ils sont intéressés que le prix ne soit pas un obstacle à l'accès.
C'était Eliane Führer, experte de l'OMS en appui au projet pilote de vaccin antipaludique. On continuera de suivre bien évidemment les avancées de ce vaccin important pour la santé. Et nous filons maintenant sur un sujet aussi important pour la société en Afrique, les grossesses scolaires. Quelques 4471 cas de grossesses en milieu scolaire ont été enregistrés depuis le début de la rentrée 2016-2017. Et ce, rien que dans le secondaire général en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'indique une étude de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre correspondante Narita Namasté a rencontré des élèves victimes dans la capitale économique ivoirienne. Écoutez.
C'est mon enfant. On n'a pas vu le père, il a la grossesse.
Yasmine a 16 ans et elle est en classe de 4e. Elle vient d'être mère d'un bébé de 2 semaines. Issue d'une famille en situation financière difficile, dans un quartier précaire de Yopougon, Lokojo, Yasmine a été abandonnée par son père génétique, aussi par l'auteur de sa grossesse.
Moi, avec un camarade, il est en même classe que mon 4e. On est sortis ensemble. Moi, mais je ne savais pas qu'il était enceinte. C'est après, j'ai su qu'il était enceinte. Moi, mais j'avais peur de rentrer à la maison. Je me suis cachée, je suis partie chez ma camarade. C'est pour ça, il ne va plus à l'école. Mais j'ai honte de partir à l'école. Moi, j'ai arrêté de partir à l'école. Les parents du jeune homme disent qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne peut pas s'occuper de la grossesse.
Comme Yasmine, elles sont nombreuses ces jeunes filles qui sont obligées d'abandonner leurs études pour des raisons de grossesse en plein milieu scolaire. Les raisons évoquées par ces jeunes filles sont pour la plupart liées aux besoins financiers. Zobo Christelle vient d'être mère à 15 ans et elle est en classe de 4e.
C'est le manque d'argent, le manque de moyens qui m'a poussée à faire ça. Puis j'ai pris une grossesse. Malgré les regards de mes amis et la manière de parler, j'ai continué d'aller à l'école. Quand j'ai eu accouché, je ne suis plus partie à l'école jusqu'à jusqu'à présent. Mais je compte retenir.
Le gouvernement ivoirien avait lancé une campagne zéro grossesse en milieu scolaire. Une politique qui ne se porte pas au mieux de cette intention. Des ONG décident de prendre les choses en main pour éradiquer ce fléau dans ce pays qui vise l'émergence d'ici 2020 en comptant sur sa jeunesse. Diama Luzette nous fait l'état des lieux.
Cependant, de septembre à février 2016-2017, nous avons eu 4471 cas de grossesse déclarée. Nous constatons que le taux qui était en baisse est légèrement en train de remonter. Parmi les villes de l'intérieur, cela a été le plus touché. Pourquoi? Parce que nous avons constaté la situation socio-économique défavorable, c'est-à-dire la pauvreté. Nous allons visiter des écoles. Pendant ces ateliers, nous allons éduquer ces jeunes élèves sur les risques liés aux grossesses en milieu scolaire pour qu'ils prennent en compte leur avenir et leur santé.
Parler de sexe avec ses enfants reste encore un sujet tabou ici en Côte d'Ivoire.
Moi, vraiment, je ne trouve pas normal de causer du sexe avec ma fille. Peut-être avec les garçons, mais avec les femmes. Tu sais, la coutume voudrait qu'on reste séparé de ces mots-là pour ne pas encourager nos enfants.
En Côte d'Ivoire, l'âge du premier rapport sexuel se situe entre 12 et 17 ans. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, le livre est promu avec faste depuis dimanche à Conakry, sa capitale mondiale. Pour un an, le coup d'envoi officiel de cette célébration a été donné dimanche après-midi lors d'une cérémonie en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture, sous la présidence du chef de l'État guinéen Alpha Condé, à l'espace d'exposition Blue Zone à Kaloum. La correspondance est signée Zakaria Camara.
Welcome, bienvenue, chante cet artiste guinéen juste après le discours d'ouverture du président Alpha Condé, discours qui lance les activités de Conakry, capitale mondiale du livre. Le président guinéen a visité le premier stand, celui du Sénégal, pays invité d'honneur dont la délégation se réjouit. Bagny Ndiaye, ministre sénégalais de la culture et de la communication.
Qui sait la place que le Sénégal a occupée et continue d'occuper sur le plan africain et sur le plan mondial pour la promotion, la diffusion de la culture, c'est véritablement un choix qui arrive à son heure.
Quelques minutes plus tôt, le président Condé mettait un accent sur la promotion de la littérature orale.
Nous lançons un appel pour ne pas oublier le griot, dépositaire de nos cultures et nos sages dans les villages. Nous devons faire en sorte que la tradition orale soit transcrite dans les livres afin que notre peuple renaisse avec son histoire.
Plusieurs sites sont retenus pour l'occasion. Au centre culturel franco-guinéen, par exemple, au moins 20 exposants proposent des ouvrages variés aux visiteurs. Marie-Madeleine, directrice de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis à Conakry.
L'objectif, c'est de partager la culture américaine via les livres, via les films, via les programmes qu'on fait.
Le Guinéen lit peu, c'est un constat, mais aussi c'est parce qu'il n'y a pas assez de bibliothèques. Jonathan Paul est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Il propose aux visiteurs des livres numériques.
Le livre numérique peut être une solution. Il y a certains aspects de praticité. C'est-à-dire que voilà, comme je vous ai dit, sur mon téléphone, je peux avoir 20, 50, 100 livres téléchargés sur mon téléphone.
Pendant une année, Conakry sera un espace de réflexion et d'échange sur le livre. Conakry, capitale mondiale du livre, est lancée en marge des 72 heures du livre. Plusieurs activités sont prévues. Des colloques, expositions, vente de livres, conférences, signatures de livres, soirées littéraires et culturelles. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la la fin de cette émission. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console John Dryden et à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24 et retrouver un bulletin d'information avec vous, Henri. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.